Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes très heureux pour vous retrouver et de vous retrouver en ce samedi matin. Alors sachez, vous avez certainement entendu le super Moscato Show hier, voire Rotten sans flamme, et vous vous dites ça y est, ils nous délaissent parce qu'ils partent en vacances. Sachez que nous serons là jusqu'à la fin de l'année. Nous serons là encore le week-end prochain. Les grandes gueules du sport ne s'arrêtent jamais, même si, et sachez-le, c'est ma vraie voix ce matin. Vous aurez compris que la forme n'est pas optimale. Très heureux de vous retrouver. Merci infiniment de votre fidélité. Alors aujourd'hui, le sommaire. C'est un week-end de Coupe de France. Donc nous allons débuter par ça, évidemment. Les 32e de finale, l'entrée des clubs professionnels. La magie de la Coupe de France existe-t-elle encore? Ce sera notre une. Isaac Hadjar est le nouvel élu, retenez bien son nom. Le pilote français débarque en Formule 1. La France comptera 3 pilotes tricolores la saison prochaine, mais dans des écuries secondaires. Sont-ils condamnés à faire de la figuration? Ce sera notre bras de fer à 10h. Et puis 11h, la polémique de l'acheminement de la neige pour l'étape de Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand. Les sports d'hiver ont-ils encore un avenir? On ouvre le débat et ce sera donc à 11h. Les grandes gueules du sport, je vous les présente ce matin. Elles sont en forme, évidemment. Enfin, j'espère. En tout cas, plus en forme que moi. Une grande gueule qui, comme le Père Noël... Ah, je peux vous assurer qu'il existe. Hein. C'est pas toujours un cadeau. Hein. Christophe, c'est ici. Salut Christophe.
Il existe en plus jusqu'à la fin des temps, parce que tu disais jusqu'à la fin de l'année. Mais moi, c'est jusqu'à la fin des temps. Je serai là que je viendrai te hanter, mon petit gars.
Il va tous nous enterrer, le Père Noël, Christophe Cessieux. Ça va, mon Christophe?
Ça va, en pleine forme. C'est les vacances demain, donc tout va bien.
Eh ben oui. Là. Mais les grandes gueules du sport ne s'arrêtent
non,
pas.
Non.
Faut le savoir.
Nous, on se casse, mais les autres restent.
mais les GG seront là. Très bien. Bon, ravi de te retrouver, évidemment, pour ce dernier week-end de l'année, si j'ai bien compris. Une grande gueule qui, comme le Père Noël, est une ordure. Bah, pour jouer dans le biopic de l'abbé de Pierre, faut forcément être une ordure. Hein. Fred Weiss, salut Fred.
C'est vrai. J'ai réussi à désacraliser un personnage comme l'abbé Pierre. Je suis très
T'as prévu un autre biopic là, Mère Teresa.
Vous aimez, peut-être que je peux le détruire.
Bah, Mère Teresa.
Voilà,
on l'adore. Voilà,
bah, c'est fini. J'ai des révélations.
Ça va, mon Fred?
Ça va très bien.
Je tiens à te féliciter. Tu as eu ton troisième enfant cette semaine.
Merci. Ça y est, la carte famille nombreuse pour la SNCF. Tu vas voir, ça change la vie.
Exactement.
Donc, comment elle s'appelle, la petite?
Lucie.
Ok, donc elle a 5 jours là, c'est ça?
10
jours?
Ouais.
Ok, tout va bien?
Tout, pour l'instant, ça va.
Ok, la maman va bien?
La maman va bien.
Les nuits vont bien?
Les nuits vont.
Bon. En tout cas, tu as assuré ta place ce matin, donc oui. Vraiment, je te félicite. Et
avec
encore
plaisir.
Félicitations de la part, j'imagine, de tous les auditeurs et de toutes les grandes gueules du
c'est
sport.
Très gentil.
Une grande gueule maintenant qui, comme le Père Noël, plus les années passent, plus il a du mal à rentrer dans son costume. David Douillet, salut David.
Bonjour Jean-Christophe.
C'est pas du tout le Père Noël.
Non, j'ai l'impression que j'essaye de m'imiter là. Ça va, mon David?
Ça va super. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Mais non, mais tu déconnes. Hein, je rentre parfaitement dans mon costume. Je l'avais pris très 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 large dès le départ.
Ah,
voilà.
C'est pour ça. Tu prépares tranquillement les fêtes là en ce moment.
Un conseil pour les futurs gros, prenez large.
Mais moi, je veux savoir si t'inquiète, tu prépares bien tes fêtes, mon David. Tout se passe bien?
Mais oui, je les prépare. Comment veux-tu que je les prépare pas? Pour moi, c'est la meilleure période de l'année. On mange, on voit les copains, on voit la famille, etc. On mange beaucoup d'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse. Bref, tout va bien, je suis heureux.
Bon, parfait. On est aussi très heureux d'être avec toi ce matin. Et puis, une grande gueule qui, contrairement au Père Noël, eh bien, ses reines à lui ne sont pas toujours très performantes. Julien Beneteau, salut Julien.
Salut tout le monde.
Ça va pour toi?
Ouais, très bien.
Ouais.
Très, très bien.
Ça va, toi aussi, tu prépares tranquillement les fêtes?
Bah, oui. En plus, moi, j'ai mon anniversaire en même temps, plus ou moins. Donc,
c'est quand?
C'était hier, comme Kylian.
Ah, happy birthday, Julien.
43 ans.
On a loupé le truc.
Donc, ce soir, anniversaire avec les copains. On va remanger et reboire avec modération, mais quand même. Et puis après, bah, les fêtes avec la famille.
Et donc, tu fais partie de ces gens qui sont nés juste avant Noël, donc qui ont un seul cadeau.
Exactement.
Voilà, bah, écoute.
Là, j'ai une épouse généreuse.
Et bah, moi, j'en profite pour souhaiter l'anniversaire de ma femme qui c'est aujourd'hui, ce matin. Voilà, elle se réveille et je lui souhaite un très joyeux anniversaire.
Et on lui souhaite aussi un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Julien. Et moi, j'en profite aussi pour dire que j'ai une Skoda avant. Voilà, elle est à 6 800 €. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me joindre en privé sur les réseaux sociaux. Joyeux anniversaire à tout le monde. Bah, j'en profite aussi. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de ma fille, le 26 décembre.
Exact.
Tu vois, je pense que c'est pire que le 20 décembre. 26 décembre, c'est pas cadeau. Bref, les copains, on va quand même faire une émission de sport. Allez. Enfin, si vous voulez, hein, sinon on peut parler de Noël. Hein.
Moi, non, mais on peut fêter la magie,
on peut faire une émission culinaire aussi.
Ta transition est toute trouvée, Jean-Christophe. Tu parlais de la magie de Noël, on parle de la magie de la Coupe de France.
Oh là là, il devrait être animateur. Bravo, mon cher Julien Beneteau. On va donc débuter cette émission avec un proverbe français qui dit « La magie du premier amour est d'ignorer qu'il puisse finir un jour ».
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Finale 1959 de la Coupe de France à Colombes. Le général de Gaulle, qui se fait présenter les équipes de Sochaux et du Havre, n'avait pas vu un match de football depuis 35 ans.
Oh, quel but ! Une reprise de volée, mais alors sensationnel, extraordinaire. Oh là là ! Alors là, des buts comme ça, mes seigneurs, croyez-moi, on n'en voit pas souvent.
Attention, peut-être une nouvelle occasion. La frappe, Joannet qui arrête le tir. Et Carquefou qui a gagné.
Mais c'est pas un sport, c'est un rêve.
Et le but, le petit poussé qui vient mettre le premier but au stadium face à Toulouse. Capit, Joko devant le petit cop des Versaillais. Ils sont à peine une cinquantaine.
Que d'émotion, mais que de fierté aussi.
Oh là là, le but quevillé d'Anthony Lhomme. C'est la balle du Stade de France d'Anthony Lhomme qui vient délivrer sa formation. Ils vont y aller comme en 1927.
Alors hier ont débuté les 32e de finale de la Coupe de France avec l'entrée en lice, je le disais, des clubs professionnels. Les 32 matchs, c'est inédit, sont à suivre en direct en intégralité sur RMC. Nos envoyés spéciaux seront sur tous les stades. Vous ne manquerez rien en écoutant RMC. Des 32e de finale pour une fois avant les fêtes de Noël. Mais profitez-en le week-end, car à partir des 16e de finale, ce sera en semaine et uniquement en semaine. Alors comme en Ligue 1, vous le savez, il faut un abonnement payant pour suivre ces rencontres, c'est sur beIN Sport. Hormis 5 rencontres ce week-end sur France 3 Région, ce sera dimanche après-midi, comme chaque année évidemment, les traditionnels reportages sur les petits poussets, les amateurs qui défient les professionnels. La saison dernière, seules 2 équipes avaient réussi cet exploit en 32e de finale. La musique qui fout les jetons et cette question: la magie de la Coupe de France existe-t-elle encore? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Moi, la magie de la Coupe de France ne m'a jamais touché plus que ça.
Elle n'a jamais existé de
Si, elle existe, mais moi, elle ne me touche pas plus que ça.
Ok. Fred Weiss.
Évidemment, bien sûr.
Évidemment. Julien Beneteau.
Oui, bien sûr qu'elle existe, mais la fédération fait n'importe quoi avec.
David Douillet.
Oui, bien sûr. C'est génial. C'est top.
C'est génial, très bien. J'attendais un oui ou un non, mais j'ai vu que aucune des 4 GG n'a parfaitement respecté cette consigne. Vous avez de la chance que je suis malade, les copains. Je suis malade. Avant de débattre, on va retrouver notre correspondant sur la Côte d'Azur. C'est Maxime Tilliette. Salut, Maxime.
Salut les GG du sport. Bonjour à tous.
Alors Cannes et Nice sont sur le pont aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes avec toi ce matin. Alors on parle de la magie, Maxime, mais il faut bien reconnaître que les amateurs ne sont plus vraiment amateurs à ce stade de la compétition.
Oui, ce ne sont plus vraiment les boulangers ou plombiers qui défient les stars de la Ligue 1. Le monde amateur se professionnalise depuis plusieurs années. Exemple à Bourgoin-Jallieu, club de National 3, la 5e division donc, qui va recevoir Martigues, club de Ligue 2 cet après-midi. Le défenseur Nicolas Seguin reconnaît en fait que son train de vie n'a presque rien à envier à celui d'un professionnel.
On a la chance finalement de tous vivre du foot ici. Je pense que ça tire le niveau sportif vers le haut puisque finalement on fait que ça. On a un rythme quelque part de pro puisque on a la chance de s'entraîner tous les matins. Il y a peut-être 10 ans, les mecs ils s'entraînaient sûrement le soir. Ils avaient leur journée de boulot dans les pattes. Donc je pense qu'aujourd'hui quelque part c'est une chance. Hein.
Une intensification des entraînements qui s'explique aussi par la présence de staff plus fourni, mais aussi de budget plus important, comme l'explique le président Djelmal Colver.
Alors nous, on peut pas exiger, par exemple, 5 entraînements et un match le samedi et rien donner en compensation aux joueurs. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc oui, on est devenu semi-professionnel, on peut le dire, mais on est plus semi-amateur que semi-professionnel.
Tous les joueurs, ou presque désormais dans ces catégories, sont conseillés par des agents. Beaucoup sont passés par des centres de formation de clubs pro. Mais les infrastructures ne suivent pas toujours. Exemple, hier soir, avec Olivier Frappoli, l'entraîneur de Laval, le 6e de Ligue 2, qui n'était pas content, malgré sa qualification au tir au but, sur le terrain de Mérignac, qui évolue en R1 en Aquitaine.
Moi, je n'ai pas pris de plaisir ce soir, sincèrement. Ce sont des matchs télévisés. On a rencontré une équipe de belle qualité, joueuse, quoi. Et tu traverses la France, tu fais 12 heures de car pour venir jouer sur un terrain de rugby. Je ne comprends pas, en fait. Comment dans les règlements, l'éclairage, la sécurité, mais comment l'air de jeu n'est jamais
un argument pour jouer un match de foot. C'est les 32e de finale, c'est retransmis à la télé. Les gens sont en droit de voir un spectacle, mais moi, j'ai pas pris de plaisir. Ouais, je suis déçu un peu de la soirée.
Ouais, le charme de la Coupe de France, c'est aussi cet écart de niveau, autant sportif que structurel, mais qui en effet tend à se réduire un petit peu entre les professionnels et les amateurs.
Merci beaucoup Maxime Tilliette pour ces précisions. Et évidemment, vous avez entendu l'entraîneur de Mérignac, pas content de sa soirée hier. Alors la magie de la Coupe de France existe-t-elle encore? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Christophe Cessieux.
Alors cette question, j'ai l'impression de l'entendre chaque année. Pour moi, c'est un peu le symbole absolu du marronnier, la magie de la Coupe de France, parce que chaque année, juste après ou désormais juste avant les fêtes, eh bien, voilà que Dame Coupe fait son retour triomphal, tellement triomphal que dans les GG, dans toutes les émissions de débat autour du foot sur RMC, eh bien, on ressort pratiquement la même question année après année, la fameuse magie de cette Coupe de France qui viendra en contrepoids au train-train du quotidien du championnat et à la monotonie de la Ligue des Champions. Alors moi, je veux bien que lorsque sa petite ville est en lice est concernée, on parle de magie et qu'on s'enflammera évidemment pour ses héros football. Mais moi personnellement, j'ai jamais été particulièrement touché par la compétition, parce que d'abord je suis né dans une grande ville qui disputait les Coupes de France, qui en a même gagné, qui en a même perdu. Donc si tu veux, la magie de la Coupe, elle intervient quand tu es un petit club et que tu vas te frotter aux gros et jouer contre les gros. Et puis aujourd'hui, je suis dans une petite ville en Normandie qui a jamais passé un tour ou deux tours dans son histoire. En milieu de compétition, quand un petit club effectue un parcours héroïque et fait tomber les gros les uns après les autres, c'est là qu'on peut parler de magie. C'est là qu'on s'attache finalement à l'artisan boucher qui joue défenseur central, au maçon qui joue avant-centre. On apprend à les connaître et là il y a un petit peu de magie. Mais j'ai l'impression, et on l'a entendu dans le reportage de Maxime, que de plus en plus ce sont des semi-amateurs ou alors des anciens pros qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout qui jouent dans ces matchs-là. Donc moi la magie de la Coupe, je suis pas très très sensible. Après évidemment, quand tu as les histoires comme Calais, comme Carquefou, comme d'autres comme ça, évidemment, mais ça arrive moins en moins.
Mais ça reste rare quand même.
Ah, c'est super rare.
Sur les dernières, les 5 ou 6 dernières finales, et bon, on parle de finale de Coupe de France, à chaque fois c'était une confrontation Ligue 1. La FFF fait n'importe quoi là, je sens qu'il y a un petit coup de gueule de la part de Bennett. Julien.
Oui, parce que là c'est ce week-end. Pour revenir à ce qu'a dit Christophe, la magie de la Coupe de France, le monde a changé. Effectivement, c'est plus des joueurs complètement amateurs qui vont aller se frotter. C'est des semi-pros ou des semi-amateurs. Ça dépend de quel point de vue on se plonge. Mais cette petite ville où c'est Bourgoin-Jallieu, ils ont le rugby, ils ont le truc. Mais s'ils tapent une Ligue 1 ou une Ligue 2, dans la ville, ça va faire parler. Oui. Il va y avoir une fête, il va y avoir un truc. Qu'est-ce qu'ils foutent les matchs après en semaine, le mardi et le mercredi à 18h? Ça doit être une fête.
Le choix de la programmation est un vrai problème.
Mais bien sûr,
c'est pour vendre, c'est pour attirer le chaland pour les droits de télé du championnat.
Mais ça doit être une fête populaire le week-end en famille, le samedi à 16h, à 18h, ou le dimanche à 15h. C'est ça la Coupe de France. Moi, j'ai grandi à Bourg-en-Bresse. Deux fois, ils ont fait une épopée en étant en DH à l'époque et en CFA. Ils ont battu des Ligue 1, ils ont fait quart de finale, etc. Nous, on les connaissait et tout. Mais ça, c'est exceptionnel. Quand t'es dans cette ville, quand t'es gamin, etc. Moi, je joue en plus au foot dans ce club-là. Mais c'est génial dans une ville une petite ville de province. On attend à 15 jours, 3 semaines du match. Tous les commerçants sont aux couleurs de la ville. C'est ça la magie de la Coupe de France. Après, effectivement, les demi-finales, les finales, il faut qu'il y ait des Ligue 1. Il faut, parce que comment dire. Il faut que le
soir,
c'est une magie finalement très localisée.
Exactement.
En fonction de.
C'est pas les grandes villes,
etc. Parce qu'on aime. Alors, je me place. De mon point de vue, moi, ce que j'aime, c'est justement le petit poussé qui va battre
bien
le
sûr.
Grand. Moi, est-ce que t'as vu Espaly Dijon? Est-ce que t'as vu, par exemple, dans les tribunes, ce qui se passait? Espaly, ça se joue en National 3. Dijon, c'est en National 1. En National.
Deux divisions d'écart. Quoi.
Deux divisions d'écart. C'était une fête absolue. En plus, Dijon, c'est un club qui a été en Ligue 1. C'est un club qui a une histoire. C'était une ambiance complètement folle. Tu regardes ça à la télé, tu dis, c'est pas possible. Dijon va gagner impérativement. Ouais. Il y a deux divisions d'écart. Mais je pense à d'autres matchs dans ce contexte. Tu te rappelles de l'OM qui perd contre Annecy à la maison, au Vélodrome?
Exact.
C'est la Coupe de France.
Ouais.
C'est de la Coupe de France.
En fait, on attend que le gros tombe, en fait.
Ouais,
on attend que les champions se fassent marcher sur la gueule.
J'ai un petit peu ça au début, mais après, en quart de finale, j'ai envie de voir des beaux matchs. Mais j'ai pas envie de voir des matchs le mardi soir, le mercredi soir. J'ai envie de voir le samedi à 18h, 19h, comme si c'était un
événement important. Le mardi soir, c'est pour la Ligue des Champions, alors.
Oui.
Donc c'est quand même pas une soirée pourrie.
Non mais
tu as raison parce que France, le côté familial, on va au stade avec les drapeaux et tout ça. C'est le week-end avec les enfants, les grands-pères et tout.
Juste avant la question, on va écouter David et évidemment on continue le débat. David.
Ouais non mais moi je rejoins Julien parce que c'est des histoires de d'hommes en fait dans cette Coupe de France. Moi ce que je trouve magique c'est le parcours des gens qui sont issus des petits clubs. Je lisais encore c'est hier ou aujourd'hui l'histoire d'une famille en Corse à Corté qui va rencontrer Nice là où les frangins là ils sont d'excellents footballeurs, il y a plusieurs générations qui ont joué dans ce club, ils auraient pu être pro, ils l'ont pas décidé, ils l'ont pas joué, ils ont des capacités physiques exceptionnelles. Ça raconte des histoires. Et tu vois, je retrouve là la magie, un peu de magie du Tour de France, où tu vas dans tous tes petits villages, etc., etc., tu découvres des choses, tu vois. Là, il y a cette magie-là, cette France chaleureuse, cette France solidaire, cette France généreuse, je trouve que pour des clubs de national, tu vois, tu prenais l'exemple de Bourg-en-Bresse, c'est un club qui aujourd'hui en N3, je crois, a été en Ligue 2. Est-ce que la Coupe de France y est pour quelque chose? Bah moi je dis sans doute parce que ça crée un certain nombre de choses, ça crée une émulation, ça crée aussi des moyens supplémentaires pour recruter des belles équipes, ça peut générer quelque chose de positif.
Alors souvent après un gros parcours en Coupe de France, tu as du mal à te maintenir dans ta division parce que tu as vécu des émotions incroyables, parce que c'est pas structuré.
Parce que les clubs sont pas structurés, ça demande de la structuration, mais certains peuvent prendre le pli, tu vois, ou certains anciens clubs de Ligue 1 peuvent reprendre du poil de la bête et se remettre dans le bain et se remettre sur les rails. Donc pour moi la magie de la Coupe de France, je trouve que c'est une grosse locomotive du football français qui est capable de réactiver ou d'activer de belles histoires.
Et ça peut être une très belle histoire pour certains joueurs. Dans le cadre du Bourg-Perona, à l'époque c'était Bourg-Perona, le numéro 10 c'était Boris Béraud, et ben Metz et Monaco, ils lui ont fait des offres. Après, il a refusé parce qu'il avait un choix de vie, etc.
T'imagines l'exposition qu'il va pas avoir.
Parce que le niveau de jeu était là.
J'entends, mais on a deux Bressans dans cette émission et c'est déjà beaucoup trop.
C'est un très bon restaurant à Verona, sur le Tour de France.
Bien sûr,
chez Manu,
c'est mon parrain. J'y sais, je suis désolé. Tu peux pas critiquer ton propre casting, je suis désolé, tant pis pour toi.
9h30, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes villes du sport. Venez nous dire si pour vous c'est toujours magique, on rappelle, c'est pas toujours en clair, on peut pas toujours voir les matchs. Et puis à partir des 16e de finale, ce sera en semaine. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h35, toujours avec David Douillet, Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Fred Weiss. Dans une dizaine de minutes, restez bien avec nous, le zapping des GG. On s'en fout pas. Avec pas mal d'informations à vous donner, notamment Léon Marchand qui part vivre en Australie ou encore le litige financier Mbappé-PSG qui repart de plus belle. Vous me direz les GG si ça vous intéresse ou non, mais restons un instant sur le débat. Coupe de France, la magie existe-t-elle encore? Pour relancer ce débat, je vous propose d'écouter Philippe Diallo. C'était il y a quelques semaines, c'était début décembre, dans l'After, lui qui envisageait évidemment de se faire réélire à la présidence de la Fédération Française de Football, chose faite depuis quelques jours. Voici ce qu'il disait sur la Coupe de France et sur une possible réforme.
Moi, je suis aujourd'hui pour un maintien du format de la Coupe de France, tel qu'on le connaît, et dans le même temps, je souhaite qu'on puisse réfléchir à sa pérennité, sans en changer les grands principes. On aura toujours des amateurs qui affronteront des professionnels. Demain, peut-être, il faut mieux valoriser un exploit lorsqu'une petite équipe élimine une équipe qui irait deux rangs au-dessus d'elle, deux divisions au-dessus d'elle, ben lui donner une dotation supplémentaire. De faire en sorte que les matchs se jouent plus en week-end qu'en semaine.
La bonne nouvelle, sachez qu'à partir des 16e de finale, cette année, ce sera en semaine. Fred Weiss.
Mais non, je trouve ça très bien, c'est une motivation supplémentaire, mais en même temps, si t'es pas motivé quand t'es un petit et que tu joues contre un gros, je comprends pas vraiment.
C'est L'argument financier,
pour moi, ça marche pas du tout. Okay. Alors, c'est intéressant, les clubs vont être ravis de prendre l'argent, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que les joueurs sur le terrain, quand t'affrontes une équipe de si haut niveau, forcément, t'es motivé. Moi, j'avais une question tout à l'heure pour Christophe, et je me dis, toi qui ne vois pas de magie dans ça, quand tu vois le Bordeaux-Rennes qui s'approche, ce monument qui est Bordeaux, qui a été rétrogradé en National 2, qui se retrouve à jouer au stade de Bordeaux, contre Rennes, une équipe de Ligue 1 qui va être blindée avec une ambiance de fou, tu vois pas que c'est un peu magique ça?
Oui, c'est un match, c'est un des matchs intéressants du week-end. Il y en a quelques-uns, heureusement. Heureusement, sur combien, 32 matchs, qu'il y en ait un ou deux qui te fassent grimper au rideau. Et celui-là en fait partie.
Oui, mais celui-là, c'est le contexte fait que tu peux avoir des matchs comme ça.
Ouais,
justement,
ouais,
ce contexte, oui. Cette Coupe de France fait que effectivement tous les matchs n'ont pas le même intérêt. Je reconnais.
Je n'ai pas dit que la Coupe de France était pourrie. J'ai dit que j'avais du mal avec le charme et surtout le côté marronnier qui revient chaque année. On nous dit, oh là là, les petits qui vont manger les gros, là.
En termes marketing, t'as oublié de le vendre de ce bout comme ça. Mais, c'est comme ça que ça fonctionne.
Quand je regarde un match de foot, j'ai envie de voir un vrai spectacle avec des vrais acteurs au haut niveau qui se rendent coup pour coup, enfin pas coup pour coup, mais qui réalisent des trucs incroyables. Il y a eu quelques matchs de Ligue 1 cette semaine, depuis une semaine, qui m'ont fait dire que la Ligue 1 était franchement d'un niveau supérieur à celui qu'on pensait. Il y a eu ce Marseille-Lille, il y a eu Lyon-Paris Saint-Germain, il y a eu Paris Saint-Germain-Monaco. Et ben, je suis désolé, moi je préfère voir ce genre de match où ça joue au ballon de manière sérieux, les matchs Gigo Haricot du samedi, du dimanche en Coupe de France, c'est sympa, mais un petit week-end de temps en temps, ça suffit.
J'étais trop gâté, mon Christophe. T'es trop l'habitude.
David, j'emboîte le pas justement sur la Ligue 1, parce que forcément, on peut faire la comparaison cette année. On voit à quel point, malheureusement, notre Ligue 1 est invisible. Cette année, où les matchs sont peu vus, où les matchs sont peu débriefés, si vous allez voir des copains, alors t'as vu le match et tout ça, souvent, personne ne l'a vu, véritablement. Est-ce que ça, la Coupe de France, peut un peu sauver le foot français?
C'est sur Bein.
Et il y a des matchs sur France 3
Région. Il y a 5 matchs en multiplex. Non, sur les France 3 Région, demain. Il y a Girondins de Bordeaux-Rennes, justement. Auxerre, Dunkerque, Style Music face à Reims. Union Saint-Jean contre Monaco, Saint-Etienne-OM. Je crois que c'est dans les locales de France 3. Donc, tu auras un match pendant le week-end. Tu crois que ça rend moins invisible le foot en France?
Donc il faudrait que ça revienne en clair, c'est ça?
Oui,
David.
Ouais, mais tu connais le modèle économique, c'est toujours pareil. Est-ce que le clair peut payer les montants du crypté? Est-ce que le modèle économique des télévisions à péage n'est pas le seul modèle pour amener suffisamment de manne financière?
Mais c'est la seule solution pour avoir tous les matchs, surtout. En clair, tu les diffusais où? Tu les montrais comment? Alors que là, au moins, c'est pas en clair, il faut payer, mais au moins, t'as tous les matchs disponibles. Donc si t'as une équipe de cœur, tu peux la voir.
Mais tu les avais aussi, sauf que tu payais pas.
Ouais, c'est beaucoup plus compliqué maintenant de mettre tous les matchs.
C'est simplement une volonté de chéquier, c'est tout. Voilà, c'est simplement des décisions dans les différentes directions des sports, des chaînes en clair par rapport aux chaînes cryptées, de dire voilà, est-ce que je fais le gros chèque, est-ce que ou pas, parce que voilà, c'est l'exigence de la L1, c'est le modèle économique de la L1 qui suscite ce genre de choses.
Justement, est-ce qu'il faudrait pas changer?
Alors moi je pense,
si on parle de réforme,
les épreuves de biathlon qui se déroulent,
tu peux changer, si t'as pas les moyens, tu peux pas changer.
Les épreuves de biathlon qui se déroulent. Vas-y, David, finis.
Excuse-moi, mais le service public aujourd'hui, enfin, j'ai rien contre le service public, bien au contraire. Mais le service public qui pourrait diffuser en clair, par exemple, ou des gros mammouths comme TF1, etc. Est-ce qu'ils ont envie de faire ce chèque? Je suis pas sûr. Est-ce qu'ils ont envie même de partager ce chèque? Je suis pas sûr. Ils préfèrent peut-être axer sur d'autres disciplines, sur d'autres championnats, sur d'autres petites niches et avoir parce que le modèle économique de la chaîne, c'est de vendre de l'espace publicitaire.
Non mais ça
c'est
oui, ça, ok. Mais
tu fais comment?
Tu fais comment?
C'est difficile à avoir.
Donc c'est difficile de s'identifier à cette Coupe de France si elle est aussi invisible que le championnat.
Il y a une chaîne qui s'appelle l'équipe. Il y a une chaîne qui s'appelle l'équipe qui diffuse en gratuit aussi. Qui va diffuser aujourd'hui les épreuves de biathlon? Eh bien, je suis sûr aujourd'hui que le biathlon va être plus suivi grâce à cette diffusion sur une chaîne gratuite que les matchs qui seront diffusés sur Bein pour le foot. Et
bien,
le foot est en train de se couper l'arbre, la branche sur laquelle il est assis depuis des années. Pourquoi tu n'essayes pas de t'associer avec la chaîne L'Équipe ou avec une chaîne gratuite?
Ça fait 30 ans qu'on en parle.
Mais oui.
C'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire que le foot a besoin d'énormément d'argent, que les chaînes, non cryptées, ne veulent plus mettre parce qu'elles considèrent que les retours sur investissement ne sont pas là.
C'est comme ça que tu vas t'en tirer définitivement.
Oui, mais il faut bonifier ton produit pour que les gens viennent voir. Il faut bonifier ton produit. Il faut des stars.
T'as entendu ce que disait tout à l'heure l'entraîneur, je ne sais plus de quelle équipe, qui disait. Mais on joue les matchs de Coupe de France sur des champs de patates. Et tu crois que le spectacle est présent quand tu fais jouer l'AS Monaco sur un champ de patates? Non, il n'y a pas de spectacle parce que tu ne peux pas jouer comme tu veux, tu ne peux pas jouer très technique sur ces gens-là. Donc, ok, tu prends les thunes, mais alors à ce moment-là, fais des terrains en bon état pour qu'on ait un vrai match de football, non?
Non, puis là, c'est la, faut pas perdre de vue que c'est la fusion entre la carpe et le lapin, entre la Fédération Française de Foot et la Ligue 1. Tu vois, c'est les clubs là qui se réunissent, c'est deux univers qui normalement devraient être identiques, mais en réalité qui sont assez dissociés, tu vois, et qui fonctionnent comme, enfin, assez différemment. Donc ce mariage là, comment veux-tu que les gens s'entendent si ce n'est que voilà, tout le monde s'en regarde toujours en chien de faïence. Il y a la Ligue et la Fédération Française de Foot qui a cédé tous ses droits il y a bien longtemps au club de professionnels.
Là, c'est la FFF voilà, c'est qui pour ça que ça marche pas. Hein.
C'est la FFF pour ça que ça marche pas.
J'ai Anthony qui nous appelle rapidement au 32-16.
Mais avec des clubs de Ligue 1.
Bonjour Anthony.
Avec tous les clubs.
Bonjour.
La magie de la Coupe de France alors, pour toi.
Exactement, la Coupe de France est une des compétitions les plus mythiques. Moi qui suis beaucoup le championnat italien, mais la Coppa Italia par exemple n'a strictement rien à voir. La Coupe de France, elle est mythique. Pour les petites équipes, on a tous en tête les Herbiers, Calais, etc. Mais aussi pour les grosses. Moi je me souviens du PSG-SSE de 82. C'est une des finales des Coupes de France les plus mythiques. Et j'entendais une chose à l'instant, je vais préciser ma pensée un petit peu plus tard, mais pour ne pas oublier, la personne, j'ai pas son nom en tête, qui disait que les équipes jouaient sur des champs de patates.
Christophe Cessieux.
C'est fantastique. Mais c'est l'intérêt de la Coupe de France. Moi, je vais vous citer un exemple.
Vas-y, Anthony.
Non, mais je vous cite un exemple. J'étais voir Villefranche-Saint-Etienne, il y a peut-être une quinzaine d'années de ça. Première fois que j'assistais à une petite équipe qui affrontait un club professionnel. J'ai jamais vu un club professionnel aussi tétanisé. Vous jouez dans un terrain, c'est un espèce de bourbier, c'est un coupe-gorge. La pelouse, c'est pas le Parc des Princes, mais c'est aussi ça qui fait le charme de la Coupe de France. Si on jouait tous les matchs de Coupe de France sur la pelouse du Parc des Princes, devant 50 000 personnes, que c'est la Ligue des Champions, en fait. Enfin, il y a plus d'intérêt. Les petites équipes, c'est justement, elles puisent leur force là-dedans.
L'intérêt pour vous, c'est de voir les gros tomber, en fait. C'est ça, la Coupe de France. C'est ça, le principe de la Coupe de France.
Pourtant, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Si demain, le PSG tombe contre les Herbiers, pour ne citer que, bien sûr que je vais être déçu pour mon club, mais c'est ce qui fait ce charme-là. On va aller dans un stade improbable, jouer sur une pelouse improbable, contre un charpentier, un maçon, et ils vont nous en poser deux. Mais c'est mythique. Okay. C'est ça le football.
Ouais. Merci beaucoup Anthony pour ton témoignage au 32-16. Sachez en tout cas que tous ces matchs, les 32 matchs, ça a commencé hier. Donc tous les matchs au week-end seront à suivre sur RMC. Nos envoyés spéciaux, nos commentateurs sont partout pour vous faire vivre au plus près cet événement. Sur RMC, vous avez entendu le Papa Noël. Oui, c'est Noël. Nous vous offrons de très beaux cadeaux. Une PS5, l'iPhone 16, 10 000 euros, plein d'autres chèques hein, d'ailleurs dans cette émission. Plein de cadeaux, plus de 100 000 euros de cadeaux à gagner jusqu'au 24 décembre. Il reste quelques jours, dépêchez-vous. Vous envoyez Noël maintenant au 732-16. Noël au 732-16. Un grand gagnant sera avec nous dans cette émission un petit peu plus tard. Et il aura un choix crucial à faire. Il devra choisir une GG. 9h45, on se retrouve dans quelques instants. Le zapping des GG. Léon Marchand qui file en Australie. Ça y est, il a changé de vie. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Fred Weiss. À partir de 10h, nous allons vous parler de Formule 1 et de ce jeune surdoué prodige Isaac Hadjar. Il est français et il débarque en Formule 1 la saison prochaine. Nous aurons 3 français en Formule 1, 3 tricolores la saison prochaine, mais dans des écuries secondaires. Sont-ils condamnés à faire de la figuration? On se posera la question à partir de 10h. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Léon Marchand, qui part vivre en Australie pour quelques mois. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Ok, David Douillet.
Je ne m'en fous pas.
Ok, Julien, Bennett.
Je m'en fous pas.
On prend aussi.
Je m'en fous pas.
Ok, bah tant mieux ça, si ça intéresse tout le monde. Alors après, vous le savez, avoir renoncé à participer au championnat du monde en petit bassin, Léon Marchand va changer d'air pour quelques semaines en début d'année et s'entraînera pendant 2 ou 3 mois en Australie. On va justement retrouver pour toutes les dernières informations notre journaliste RMC Sport spécialiste natation, Julien Richard. Bonjour Julien.
Salut les grandes gueules du sport.
Alors pourquoi ce choix?
Il est pas en Australie quand même celui-là, non?
Il est au grand bord. Bon. Et il nous fera vivre tout à l'heure le biathlon. Voilà, à partir de 11h, on parlera justement de cette polémique au grand bord. Non, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Julien Richard, c'est toi qui nous a donné cette information cette semaine. Pourquoi ce choix, l'Australie?
Alors attention au choc thermique, parce que Léon Marchand, il a annoncé ça sous le soleil de la Réunion, où il se trouve en ce moment pour un meeting, le meeting de l'océan Indien. Donc casquette sur la tête, il avait un grand sourire, Léon Marchand, et il annonce donc aux médias locaux présent sur place un départ pour début janvier pour 2 ou 3 mois en Australie en marchant.
pour respirer, pour respirer, pour voir autre chose. Je vais essayer de voir une autre culture, de m'entraîner avec un autre coach. J'ai vu avec mon coach Bob Bowman justement, il pensait que c'était bien de voir une autre façon de s'entraîner. C'est le bon moment, j'ai 4 ans pour me préparer pour Los Angeles, j'ai le temps.
En Australie, Léon Marchand va s'entraîner à Brisbane avec Dean Boxall. Alors c'est un personnage, hein. C'est un bouillant coach qui a de longs cheveux blonds et qui est très très expressif au bord des bassins. C'est l'entraîneur surtout d'un très gros groupe avec notamment la star australienne Ariane Titmus qui a conservé à Paris son titre olympique du 400 mètres nage libre. Léon Marchand au passage confirme qu'il va justement faire évoluer son programme de course comme on s'y attendait un peu, hein. Il va notamment ajouter plus de crawl, c'est ce qu'il a dit, mais sans plus de précision. Il est également revenu sur son forfait pour les championnats du monde en petit bassin la semaine dernière à Budapest. Léon Marchand.
Parce que j'étais épuisé. Je suis rentré de Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'était en Asie. J'étais avec mon petit frère, c'était génial. Mais quand je suis rentré à Toulouse, j'étais vraiment, j'avais plus de jus, plus d'énergie. Donc j'ai décidé de me reconcentrer un peu sur l'entraînement, de prendre mon temps et surtout de me faire plaisir avec ce voyage à La Réunion. Alors je suis toujours très compétiteur, donc forcément il y aura un peu de compétition. Mais le but, c'est vraiment de me ressourcer et de prendre le temps pour moi et de repartir sur des basses scènes en 2025.
Voilà, La Réunion, il s'agit surtout d'allier vacances et compétitions. Hier, par exemple, il a gagné le 200 mètres brasse, c'est en grand bassin, dans un très bon chrono. Et l'année 2025, il sera attendu fin juillet pour les championnats du monde qui auront lieu en grand bassin, donc à Singapour.
Ok, merci Julien Richard pour toutes ces précisions. Un mot à dire, les GG, sur ce départ de Léon Marchand en Australie?
Un peu surprenant sur comme ça de but en blanc, on a l'impression que c'est un peu bizarre comme stratégie, mais effectivement il a le temps, lui son objectif c'est 2028, il se prépare, il change un peu les idées, il va peut-être changer de distance et faire un petit peu de plus de nage libre. Donc honnêtement sur le coup je me suis dit il pète les plombs, ça y est c'est fini. Et en fait quand tu réfléchis tu dis voilà, il a une stratégie à moyen terme, il sait exactement où il va, il est en accord avec son coach Bowman, j'ai envie de dire tente le coup et on t'attend en 2028 de toute façon.
On en parle souvent depuis quelques semaines, on a l'impression qu'il a besoin d'être loin de loin de la ferveur, Léon Marchand, non ?
Non, je pense que son statut en France a complètement changé depuis cet été et que lui, il a pas envie de ça. Il est aux États-Unis en université, il est tranquille. Là, il va dans un pays, c'est un pays de la natation, l'Australie. Je pense qu'il a envie de se donner tous les moyens pour Los Angeles, de changer de nage pour entrer définitivement dans la légende. Mais je pense que cet été, avec la programmation, la préparation qu'il va avoir au championnat du monde en grand bassin, il va faire très très mal encore.
Ok, bon, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup Julien Richard, on te retrouve tout à l'heure. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le choc de l'année entre Fury et Usyk. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Ça, on ne s'en fout pas du tout.
David Douillet.
On s'en fout pas du tout.
On s'en fout pas. Julien Beneteau.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas.
On fout.
Ok, je pensais que ça allait intéresser tout le monde. Non, l'heure de la revanche approche. Battu en mai dernier par Alexander Usyk sur décision partagée, Tyson Fury retrouvera l'Ukrainien ce soir à Riyad en Arabie Saoudite. 3 ceintures seront en jeu chez les lourds puisque Usyk a abandonné son titre IBF par forfait. Ça va être certainement un combat extraordinaire. On l'espère en tout cas. En tout cas, Fury a des choses à prouver, Christophe.
Hein. Ah oui, il a des choses à prouver parce qu'il a été battu. La seule défaite de sa carrière lors du combat aller face à Usyk, qui est pourtant beaucoup plus petit que lui, mais alors qu'il va à une vitesse incroyable, qui a un jeu de jambes magnifique. Et puis Fury l'avait pris un peu de haut justement. Et il est tombé sur un os. Et là, on le sent, le Britannique très concentré, il s'est préparé comme jamais pour ce combat. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors évidemment, c'est un combat de poids lourd entre un Ukrainien et un Anglais. C'est pas l'époque de Ali face à Frazier ou Foreman, où les Américains, les poids lourds américains dominaient vraiment la partie. C'est peut-être un peu moins médiatique de par le monde, parce que quand t'avais des combats comme ça à Las Vegas, c'était extraordinaire. Là, ça se passe en Arabie Saoudite, qui est la Mecque aujourd'hui, sans faire de jeu de mots du sport, parce que la bourse promise aux deux boxeurs est tout simplement hallucinante. 180 millions d'euros que vont devoir se partager les deux hommes. Avec ça, moi, je suis
c'est du 60-40. Hein. C'est du 60-40, hein. Alors que pour le premier combat, ouais, c'est du 80-20. Et donc, du coup, là, c'est du 60-40 pour Fury.
Pour financer cette bourse, est-ce que c'est sur France 3 Auvergne le combat?
c'est la magie de la boxe et non la magie de la Coupe de France. David Douillet sur le combat.
Non, mais c'était la revanche. Elle était attendue. Elle est attendue à la seconde où Usyk a battu Fury. C'était évident. Maintenant, on connaît les travers de Fury qui a tendance à se laisser aller, à prendre du poids, à être très particulier dans sa préparation. Et là, on verra si le miracle aura opéré. Est-ce qu'il aura suffisamment de concentration, d'abnégation et puis surtout
de motivation pour essayer de récupérer. Moi, je pense que oui. Donc, c'est pour ça que ça va nous donner un grand combat. Je suis assez certain de ça.
Il a déclaré justement, et je vous redonne la main, hein, je dois être plus concentré cette fois-ci et ne pas trop me mettre en avant. Je vais le mettre KO cette fois, c'est promis.
Ils se sont, je ne sais pas si vous avez vu la pesée, ils se sont regardés
11 minutes,
les 12 yeux
minutes,
dans les yeux pendant 11 donne... minutes. Ouais, c'est ça. 11 minutes
sans bouger.
Ouais,
et en parlant de pesée, David parlait du poids. Furyk, là, il fait 25 kilos de plus que Usyk.
Et 25... un paquet de centimètres aussi. Hein.
Ouais. Mais justement, je disais quelque chose dans la semaine sur ce combat-là, c'est qu'il était peut-être trop léger au dernier combat, Fury, et sa force, c'est vraiment sa puissance quand il allie la vitesse et le poids, et que là, il y a quand même 25 kilos d'écart, c'est quand même pas rien.
Le combat, c'est dans la nuit, on en parlera demain matin, ce résultat, exactement. Juste une petite question comme ça, il y aura une expérience inédite pour ce combat, est-ce que vous savez ce que c'est?
C'est le lever de rideau, Fred Weiss, David Douillet.
Non, pas du tout. Non. Malheureusement.
C'est un bout de lever de rideau.
Mais dans la boule des deux.
Non, il y aura un truc qui s'est jamais fait. Est-ce que vous avez vu cette information ou pas du tout?
Alors, j'ai pas écouté ce que t'as dit, Jean-Christophe.
Il y aura un truc qui s'est jamais fait durant ce combat, une expérience inédite à Riyad en Arabie Saoudite. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Ah non.
Non. Non, vous savez pas. Tout le monde donne sa langue gauche. Non, ce sera pas un débat caché. Non, c'est un quatrième juge. Aidé de l'intelligence artificielle qui donnera un verdict, celui-ci n'aura pas d'impact sur le résultat.
Ah d'accord.
Voilà. Mais il y aura l'intelligence artificielle qui va juger un combat.
Pas mal, non?
Oui.
C'est bien, c'est matière à polémique supplémentaire, tu vois.
Voilà, après le VAR, l'intelligence artificielle.
Il y a tout pour plaire à Christophe. Combat en Arabie Saoudite, jugé par l'intelligence artificielle. Là, Christophe, il va péter
avec
les
deux robots, pas deux combattants, ça va être
super. Je vais quitter ce monde sur ce coup-là. Allez, adieu, bon vache cochon.
Allez, 9h56, on se retrouve dans quelques instants. Le bras de fer des GG, Isaac Hadjar, le nouvel élu de la Formule 1, le nouveau prodige. Il est français, on en parle dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.